Vous écoutez, on lit pour vous.
L'imputabilité est le contraire d'une pandémie. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 7 septembre 2025 dans la presse. La commission Galland se résume en un mot. Un seul. Et Dieu sait qu'il s'en dit des mots au cours des nombreux témoignages. Non, ce n'est pas la phrase la plus entendue, je ne m'en souviens plus. Ça, c'est six mots. Ce n'est pas non plus le mot « napperon », dont il est beaucoup question. C'est, roulement de tambour et majuscule, « imputabilité ». Le mandat de la commission est de découvrir qui est responsable de l'astronomique facture d'$1 milliard, payable par les contribuables, pour la mise en place du site transactionnel appelé ironiquement « Ça clique. Ça cache ou ça crache aurait été plus judicieux. D'où ça sort, l'imputabilité? Du latin imputare. Im signifiant sûr et putare signifiant compter. Donc, porter au compte de quelqu'un. C'est un terme comptable. Ça tombe bien pour un scandale financier. Avec le temps, le mot « imputabilité » a pris un sens plus général et désigne maintenant le fait de tenir quelqu'un responsable de ses actes. Pour Platon, le roi doit rendre compte non à son peuple, mais à l'idée du bien. L'imputabilité est avant tout morale et liée à la justice universelle. Pour saint Augustin, chaque être humain est responsable de ses actes. La faute nous est imputable parce qu'on aurait pu agir autrement. Pour Hegel, l'individu est responsable, mais son action prend son sens dans une totalité sociale. L'imputabilité est collective. Pour Kant, chacun de nous doit assumer ses choix. On ne peut pas rejeter la faute sur les circonstances. Il semble bien que peu de témoins de la commission Galland ont lu Kant avant de témoigner. Nietzsche, bien sûr, dit le contraire de tout le monde. L'imputabilité est une invention des prêtres pour culpabiliser les hommes. C'est une construction sociale, pas une donnée naturelle. En tout cas, pas besoin d'être philosophe pour constater que peu importe l'époque, la responsabilité d'une catastrophe incombe toujours aux autres et jamais à soi. L'imputabilité est le contraire d'une pandémie. Une pandémie, c'est lorsqu'une personne atteinte d'un virus le transmet à autrui, qui le transmet à un autre autrui, qui le transmet aussi et tutti quanti. Au bout du compte, tout le monde l'a. Tout le monde est malade. L'imputabilité est un virus qu'une personne affirmant ne pas en être atteint rejette sur autrui, qui le rejette sur un autre autrui, qui le rejette aussi et tutti quanti. Au bout du compte, personne ne l'a. Personne n'est responsable d'un raté. L'imputabilité est l'anti-pandémie. À la commission Galland, tout le monde renvoie la responsabilité du fiasco à l'échelon en dessous. Le PM dit que c'est son chef de cabinet qui aurait dû le prévenir. Le chef de cabinet dit que c'est le et la ministre qui aurait dû le prévenir. Le et la ministre disent que c'est le dirigeant de la SAC qui aurait dû les prévenir. Le dirigeant de la SAC dit que c'est l'employé responsable du dossier qui aurait dû le prévenir. On joue à la tag de la faute à qui. Ça va finir que c'est à cause de nous, les clients. S'il n'y avait pas de gens ayant besoin de permis de conduire, il n'y aurait pas de site ça clique. S'il n'y avait pas de site ça clique, il n'y aurait pas $1 milliard de dépensés. Qu'en nous? Mea culpa, ou plutôt we are culpa. Notez que la transmission de la responsabilité de cet échec suit la courbe inverse de l'imputabilité. Le PM est responsable de son chef de cabinet. Le chef de cabinet est responsable de l'information transmise par les ministres au PM. Les ministres sont responsables des actions des dirigeants des sociétés d'État. Les dirigeants des sociétés d'État sont responsables de leurs employés. Pourtant, quand ils témoignent, ils raisonnent comme si c'était l'inverse, comme si l'inférieur était responsable de son supérieur. Non, non, non. Qu'il le veuille ou non, le PM a la responsabilité de toutes les gaffes de son gouvernement. Maintenant, si on veut aller au bout de la chaîne d'imputabilité, la question est de savoir qui est imputable du premier ministre. Attendez, ceux qui l'ont mis en place. C'est qui déjà? C'est nous. On ne s'en sort pas. Nous sommes tous l'imputable de quelqu'un, donc de quelque chose. Heureusement qu'on n'a pas besoin de témoigner. Quoique, ce n'est pas tout le monde qui a voté pour François Legault, et ceux qui l'ont fait, c'est parce qu'il leur a dit qu'il ferait une bonne gestion. Donc, ce n'est pas vraiment leur faute. Bref, on a toujours une bonne raison de ne pas être complètement responsable de ses actes. Je vous le dis, l'imputabilité est le contraire d'une pandémie, mais imputabilité et pandémie ont un point commun. Tout le monde s'en lave les mains. Bien sûr, s'il était question de l'imputabilité d'un triomphe, vous virez toute cette chronique à l'envers. Tous les intervenants, proches ou lointains, en seraient les grands responsables. Ce serait le festival du pétage de bretelles. Mais on ne fait jamais de commission pour savoir à qui l'on doit une réussite. Que des commissions galants. Jamais de commission gagnant. C'était « L'imputabilité et le contraire d'une pandémie », un texte de Stéphane Laporte, paru le 7 septembre 2025 dans La Presse.
Saviez-vous que le tamia rayé est un architecte souterrain? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 27 août 2025 dans Le Devoir. Avec sa bouille sympathique et son omniprésence près des campeurs, le tamia rayé est un rongeur fascinant à observer en saison estivale. Mais ce petit animal agile et rapide est aussi, et surtout, un travailleur infatigable qui est capable de se bâtir un réseau souterrain doté de tout le nécessaire pour passer l'hiver à l'abri. Si vous avez déjà pu observer des tamias rayés, vous avez très certainement remarqué leur hyperactivité tout au long de la journée, au cours de laquelle ils multiplient les déplacements à la recherche de nourriture pour leur progéniture. Ils ont une portée de 4 à 6 petits par année, ou pour faire des provisions. Ils sont d'ailleurs particulièrement habiles avec leurs pattes antérieures pour manipuler noix et graines avant de les écosser avec leurs dents affilées. Et il suffit de voir leurs abajoues, poches situées dans chaque joue, bien remplies, pour comprendre leur besoin de stocker de la nourriture en prévision, notamment des mois d'hiver. Il faut dire que, contrairement aux écureuils, les tamias rayés ne sont pas actifs en période hivernale. En fait, ils pratiquent une forme d'hibernation au cours de laquelle ils sortent régulièrement de leur torpeur pour manger. Ces mammifères, qui peuvent vivre environ 3 ans, dépendent donc de leur garde-manger et non de réserves de graisse pour passer au travers de l'hiver. en prévision des longues périodes froides et pauvres en nourriture dans leur environnement, les tamias doivent donc aménager un terrier bien adapté à leurs différents besoins vitaux. Sous la terre, à environ 75 cm de profondeur, le tamia aménage un réseau de galeries et de tunnels où chaque salle possède une fonction. Une grande pour dormir, quelques petites pour entreposer ses réserves pour l'hiver et, généralement, un petit coin en retrait pour faire ses besoins. L'espace doit être suffisant pour entreposer un volume de 7 litres de graines. Peut-on lire sur une page du site web d'Espace pour la vie consacré aux petits rongeurs? Le lieu où le terrier est aménagé est également important, précise-t-on. L'habitat doit contenir suffisamment de débris, de feuilles et de branches pour bien dissimuler l'entrée du terrier, mais aussi des cachettes et des perchoirs afin de pouvoir s'y réfugier. De plus, la présence de suffisamment d'arbres producteurs de riches noix et graines garantit les réserves lors de la saison froide. C'était « Saviez-vous que le tamia rayé est un architecte souterrain? » Un texte d'Alexandre Shields, paru le 27 août 2025 dans Le Devoir.
Une stratégie à suivre. Philippe Schnob pilote le virage du village. Un texte d'André Constantin Passiour avec la collaboration de Denis Daniel Boulay, paru le 18 septembre 2025 dans le magazine Fugue. À la fin de juin 2023, la mairesse Valérie Plante annonçait la stratégie d'intervention collective du village, qui était ni plus ni moins qu'un plan stratégique pour le développement économique du village, appui à la SDC, la mise sur pied d'une association citoyenne du village de Montréal, ce qui a été fait, veiller à la propreté du secteur par la création des alliés, la création d'un programme pour les groupes communautaires du quartier, le FIL, Fonds d'initiative locale, et une présence policière accrue dans le but de sécuriser les résidents, les commerçants et les visiteurs. La mutualisation des PDQ, police de quartier 21 et 22. Au printemps dernier, nous avons vu l'arrivée du comité de la stratégie d'intervention collective du village, une sorte de comité de suivi afin de vérifier si les actions ont bel et bien été entreprises, leur impact et comment appuyer encore plus de tels efforts. L'arrondissement de Ville-Marie a nommé à sa tête en tant que coordonnateur Philippe Schnob, l'ancien président de la STM. « On n'est pas là pour parler, on est là pour suivre », déclare d'entrée de jeu M. Schnob. Installé dans ses fonctions depuis quelques mois, Philippe Schnob est clair. Son mandat n'est pas de repenser le quartier à zéro, mais de s'assurer que les projets annoncés avancent et qu'ils tiennent la route. « Mon objectif, c'est que ce soit sur des bases assez solides pour que ça puisse durer, peu importe qui en prend la responsabilité dans l'avenir. » Inspiré par sa propre expérience de gestion à la STM, M. Schnob a mis en place une grille d'analyse détaillée. Chaque action de la stratégie collective du village y est listée avec son statut, en cours, complété, abandonné, ses responsables et surtout les indicateurs de résultats. Ce n'est pas en me promenant en disant « bon, c'est propre aujourd'hui » ou « c'est tranquille ce soir » qu'on peut conclure à une amélioration. Il faut des données. Des vrais indicateurs, explique-t-il. Un comité diversifié, mais sans budget. Le comité n'a aucun budget propre pour agir. Le seul budget, c'est mon salaire, payé à l'heure, rappelle Philippe Schnob, qui dispose d'un mandat de 500 heures pour faire vivre la stratégie. Ce sont donc les membres du comité, principalement des représentants d'organismes communautaires ou institutionnels qui alimentent la réflexion et le suivi. Les membres du comité, le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal SDC du village, Gabriel Rondy, Réseau, Alexandre Dumont-Blais, L'Accueil Bonneau, En Marge, 12-17, la Corporation de développement communautaire, CDC Centre-Sud, Spectre de rue, Studio ZX, le Conseil québécois LGBT, Espace LGBTQ+, l'Association citoyenne du village de Montréal, ACV Montréal, Benoît Éclash, et enfin l'arrondissement de Ville-Marie, les fonctionnaires Jérémy Lévesque et Simon. Des actions concrètes sous la loupe. Parmi les premières priorités du comité, le suivi de la brigade de la propreté. L'équipe, baptisée Les Alliés, est bien en place, mais son efficacité reste à évaluer objectivement. La brigade peut bien exister, mais elle peut être tout croche. Est-ce qu'elle remplit son mandat? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que les citoyens sont satisfaits? Est-ce qu'il faut plus de monde? On doit veiller à ça, dit-il. Même réflexion pour le sentiment de sécurité dans le quartier, un enjeu aussi délicat que central. Le SPVM, initialement absent du comité, a récemment été intégré à certaines rencontres. Une collaboration plus étroite avec le PDQ21 est désormais en cours. J'ai déjà rencontré la commandante Christina Balogue pour discuter de la situation dans le village. Nous avons eu de beaux échanges et cela va se poursuivre dans l'avenir, dit M. Schnob. Un quartier en pleine mutation. Le comité doit aussi composer avec les transformations profondes du quartier à venir. On attend entre 10 000 et 15 000 nouveaux résidents dans les prochaines années avec les nouveaux développements résidentiels. Il faut penser à comment on va garder l'identité du village dans ce contexte, poursuit-il. La rue Sainte-Catherine, ce n'est pas tout. Le territoire, c'est l'ensemble du village. Pour ces fins, le comité conserve la carte géographique telle qu'élaborée par l'ACVM Montréal, voire le site web de l'Association pour les limites territoriales. Bien que le comité n'ait pas le pouvoir d'agir sur des chantiers majeurs comme le réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Est, un projet de 200 millions, il veille au grain. Ce n'est pas notre projet, mais on ne voudra pas un crochet vert là-dessus tout de suite. Il faut s'assurer que ça sert vraiment au quartier, d'affirmer l'ancien président de la STM. La voix des citoyens comme boussole. L'ensemble du travail du comité repose sur une consultation citoyenne tenue en 2022, le Forum du village, à laquelle ont participé des centaines de personnes. C'est ce qui donne toute sa légitimité à l'exercice, selon M. Schnob. C'est une stratégie collective qui a une raison d'être avant et après les élections municipales de novembre prochain, parce qu'elle est basée sur l'opinion des gens du quartier. Ce n'est pas parti d'en haut, c'est parti du terrain. Il existe aussi sur la nécessité de maintenir vivantes les structures créées, comme l'Association citoyenne du village. On pourrait se retrouver avec une association qui ne se réunit plus, lance-t-il. Le rôle du comité, c'est de vérifier que ces structures sont actives, crédibles et qu'elles remplissent leur mission. Prochaines étapes, vers un plan stratégique collectif. Alors que le comité a tenu trois rencontres depuis mai 2025, M. Schnob vise la production d'un rapport annuel public qui dressera un état des lieux rigoureux, partagé avec les partenaires et les citoyens. Parallèlement, les organismes représentés autour de la table sont invités à développer leur propre plan stratégique en cohérence avec la vision globale. J'essaie de trouver les points communs. Mon rôle, c'est de veiller à ce que rien ne se perde en chemin, souligne-t-il. La mission confiée à Philippe Schnob est à la fois modeste et ambitieuse. Assurer la cohérence et le suivi de projets souvent portés par d'autres, mais qui impactent directement la vie dans le village. Et si la lourdeur administrative, le manque d'indicateurs clairs ou les moyens limités rendent parfois le chantier ardu, une chose est claire, la volonté d'écouter le terrain et d'agir avec rigueur est bien présente. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, mais si tout le monde fait bien son travail de représentation, on n'oubliera personne, affirme Philippe Schnob. C'était une stratégie à suivre. Philippe Schnob pilote le virage du village. Un texte d'André-Constantin Passiour avec la collaboration de Denis Daniel Boulay, paru le 18 septembre 2025 dans le magazine Fugue.
Arnaque écologique, la voiture électrique. Un texte de Valérie Simard, paru le 19 septembre 2025 dans la presse. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos dénoncent la soi-disant arnaque écologique que représente la voiture électrique. Bien qu'on la qualifie de zéro émission, il est vrai que la voiture électrique n'est pas sans impact sur l'environnement. Notre lecteur, Luc Martin, raconte avoir lu récemment qu'il faut rouler 300 000 km en voiture électrique, VE, avant de pouvoir dire qu'elle pollue moins qu'une auto à combustion. Cette affirmation vient cependant d'une mauvaise interprétation d'une étude du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, CIRAIG, réalisée en 2016. L'étude conclut plutôt que les VE ont entre 55 et 80 moins d'impact environnemental que les véhicules à essence après avoir parcouru 300 000 km, sauf pour l'épuisement des ressources minérales. Pour la santé humaine, les écosystèmes, le changement climatique et, bien sûr, l'épuisement des ressources fossiles, les effets négatifs des VE sont inférieurs de 29 % à 65 % à ceux des autos conventionnelles, après 150 000 km dans le contexte québécois. De plus, l'étude du CIRAIG ne tenait pas compte du recyclage des batteries qui s'est grandement développé ces dernières années. Environ 95 % des composants des batteries peuvent aujourd'hui être recyclés. Dans sa nouvelle usine de Saint-Bruno de Montarville, ouverte l'an dernier, Lithium Technology effectue la première étape du procédé de recyclage. L'usine peut traiter 10 000 tonnes de batteries par année et prévoit doubler cette quantité lorsqu'elle sera à plein rendement. Mobilité électrique Canada, qui représente l'industrie canadienne du transport électrique, demande d'ailleurs au gouvernement de légiférer pour rendre obligatoire le recyclage des batteries. Depuis la publication de l'étude de 2016, plusieurs recherches ont confirmé que les VE émettent moins de gaz à effet de serre sur leur durée de vie que les véhicules à essence. Surtout lorsqu'ils sont rechargés grâce à de l'énergie renouvelable, comme c'est le cas au Québec, mais cela s'avère aussi dans les autres provinces canadiennes et dans les pays plus dépendants au charbon. En Inde, les émissions de carbone des VE sont de 19 % à 34 % inférieures à celles des véhicules à essence. Aux États-Unis, une étude publiée en août a démontré que les véhicules électriques ont des émissions de GES inférieures à celles des véhicules thermiques à essence dans tous les comtés des États-Unis, 70 % en moyenne sur l'ensemble du cycle de vie. Plus d'extraction minière, moins de cobalt? Il est vrai que la demande croissante pour les VE exerce une forte pression sur les minéraux critiques, ce qui nécessitera l'ouverture de nombreuses nouvelles mines, avec les impacts environnementaux et les enjeux géopolitiques que cela risque d'engendrer. Une critique récurrente envers les VE concerne le cobalt utilisé dans plusieurs batteries lithium-ion. L'un des grands pays producteurs de ce minerai est la République démocratique du Congo, qui fait l'objet de vives critiques en raison des mauvaises conditions de travail dans les mines, dont plusieurs sont exploitées par des entreprises chinoises. Certains constructeurs se tournent désormais vers des batteries sans cobalt, lithium-fer-phosphate, souligne le PDG de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Tu peux faire le choix d'une batterie sans cobalt, alors que si tu as une voiture à essence, C'est certain que tu as besoin de cobalt, parce que le processus de raffinement du carburant en nécessite, expose-t-il. Particules fines. Il reste la question de la pollution de l'air. Le VE ne rejette pas d'oxyde d'azote, de dioxyde de carbone et de composés organiques volatiles lorsqu'il roule. Mais le poids de sa batterie oblige les constructeurs à utiliser des pneus plus larges qui, en frottant sur la chaussée, émettent des particules fines associées à des risques pour la santé. Ces particules, dites « hors échappement », correspondent à plus de la moitié des particules générées par le trafic routier en Europe, selon le Centre commun de recherche de la Commission européenne. En revanche, grâce au freinage régénératif, les VE émettent moins de particules en freinant que les véhicules conventionnels. Dans un rapport de 2020, l'OCDE demande néanmoins aux décideurs publics de s'intéresser à la réduction de ce type de particules, et cela passe par l'allègement des véhicules et de nouvelles règles pour la composition des pneus. Car la tendance à l'enflure des véhicules touche aussi les VE. Cette perpétuation de la culture de l'auto-solo, dans des véhicules toujours de plus en plus gros, amène plusieurs observateurs à qualifier la voiture électrique de « fausse bonne solution ». En dédouanant le conducteur et la conductrice de toute conscience environnementale et en faisant de l'automobile un modèle de technologie verte, on ne fait qu'inciter les Québécois et Québécoises à utiliser davantage leur automobile, dénonce Olivier Ducharme dans l'essai « Ville contre automobile ». Daniel Breton se défend de prôner la voiture électrique tous azimuts. Ça fait 3 décennies que je dis qu'il faut des véhicules moins polluants et moins de véhicules sur les routes, dit-il. La voiture électrique, ce n'est pas la solution. C'est une des solutions. Ça prend plus de transports collectifs, plus d'autopartage, plus de covoiturage, plus de transports actifs. La première question à se poser, selon lui, comme consommateur, est « Ai-je vraiment besoin d'une voiture ?» La deuxième « Ai-je besoin d'une aussi grosse voiture ?» C'était « Arnaque écologique, la voiture électrique ?» un texte de Valérie Simard paru le 19 septembre 2025 dans La Presse.